Nous avions laissé l'enfant Jésus dans le dénuement de la crèche, entouré de ses parents. Et voilà que la scène d'aujourd'hui, la présentation au temple, va être l'occasion d'un dévoilement dans ce lieu solennel, le cœur vibrant du peuple d'Israël d'alors. Quel contraste! Et c'est l'occasion pour Luc de nous instruire davantage sur cet enfant. À travers un certain nombre de mots qu'il va utiliser ou qu'il va mettre dans la bouche des protagonistes de cette scène, nous allons découvrir d'abord que cet enfant est consolation. Consolation, c'est le mot qu'utilise Luc au sujet de Siméon, mais aussi dans la bouche de la prophétesse Anne, délivrance. Cet enfant, en effet, conformément à ce que l'ange avait annoncé à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il vient délivrer le cœur de l'homme dans son plus grand mal, qui est le péché. Et cela, en effet, est consolation. Siméon avait reçu aussi la révélation qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir salué, reconnu cet enfant qui serait le Christ, le Messie du Seigneur. Voilà un terme qui résumait toute l'espérance du peuple d'Israël. Ce Messie attendu, espéré depuis des siècles. Et voilà qu'aujourd'hui, il se présente à Siméon sous les traits tout simples d'un enfant. Et pourtant, c'est bien lui, le Christ, celui qui a reçu l'onction, littéralement, de son Père. Ou bien, pour reprendre une expression semblable que nous retrouvons à la fin de l'Évangile, la grâce de Dieu était sur lui. Oui, dans cet enfant, c'est toute la bonté, toute la puissance, toute la transcendance, mais aussi toute la douceur de Dieu qui habite. Et puis, il y a enfin un troisième terme qui résume peut-être tout cela, et cette fois, c'est dans la bouche même de Siméon que nous l'entendons. Il le reconnaît comme celui qui est le salut. Le salut, c'est en effet ce que l'ange avait annoncé à Joseph en lui disant, en lui demandant de la part de Dieu, « Tu lui donneras le nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve. » Tous ces noms sont là véritablement pour décrire le mystère de cet enfant, pour nous permettre de le pénétrer. Mais remarquons bien que ce jour-là au temple, il y avait certainement beaucoup de monde, comme il y avait toujours foule au temple, mais que seulement deux personnes ont reconnu en cet enfant l'envoyé de Dieu. Et c'est là qu'il y a un verbe auquel nous devons faire attention, qui est répété deux fois. Ils attendaient la consolation, ils attendaient la délivrance. Oui, ce Dieu se révèle dans la discrétion à ceux qui savent durer dans l'attente, à ceux qui savent garder perpétuellement un cœur ouvert à cette présence qui se révèle avec tant de discrétion. Nous comprenons que Luc ait parlé de consolation, car tous ces noms attribués à cet enfant sont en effet pour nous le signe même de la consolation. Et cela va conduire le vieillard Siméon à un double mouvement, il va commencer par bénir Dieu, c'est-à-dire lui rendre grâce, chanter sa louange pour cet enfant attendu et enfin advenu. Après avoir béni Dieu, il va bénir ses parents. Ses parents, tout étonnés d'entendre dévoiler devant eux ce secret qu'alors ils étaient seuls à connaître, que cet enfant n'est autre que le Fils de Dieu. Consommation de la délivrance du peuple. Le texte pourrait s'arrêter là, et nous pourrions rêver, peut-être. Mais il continue, car il y a un autre terme que Siméon utilise pour parler de cet enfant. Il le désigne comme un signe de contradiction. En effet, dès que Jésus paraît dans le monde, dès qu'il paraît au milieu des hommes, les cœurs des hommes sont obligés de se dévoiler. Et voilà que cette lumière, et c'était un autre nom que Siméon avait utilisé pour le désigner, cette lumière qui se révèle aux nations est aussi celle par lesquelles les pensées les plus secrètes des cœurs sont dévoilées. Oui, devant Dieu, tout est à nu, il n'y a pas de mensonge possible, la vérité est portée à la lumière. Et c'est ainsi que s'effectue un discernement, c'est-à-dire une séparation entre ce qui est ténèbres et lumière. Et c'est là que prend place la prophétie de Siméon qu'il adresse à la mère « Ton âme sera traversée d'un glaive ». Et voilà donc que sur ce mystère de Noël, mystère tout de douceur, mais aussi déjà de rudesse, souvenons-nous de la rudesse de la crèche, voici que plane déjà le signe de la croix. Et cela ne va pas tarder à se manifester avec violence, puisque nous savons que cet enfant sera recherché par Hérode, ce qui va déclencher la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Oui, nous ne pouvons pas regarder ce mystère de Noël d'une façon romantique, à la manière des contes de Noël, nous devons le regarder dans la lumière totale qui nous est dévoilée aujourd'hui. Edith Stein, réfléchissant, méditant sur le mystère de la crèche, ne peut pas s'empêcher de le rapprocher du mystère de la croix. Ainsi a-t-elle écrit « La joie de Noël, chacun de nous a pu l'éprouver. Mais aujourd'hui encore, l'étoile de Bethléem brille dans une nuit profonde. Déjà alors, les saints innocents, les nourrissons de Bethléem et de Juda, impitoyablement massacrés, font cortège à l'enfant dans la crèche. » Ainsi donc, parce qu'elle fait l'expérience de la croix, de la souffrance, de la mort qui la frôle, la Sainte Famille demeure pour nous si proche, quand nous savons combien de familles aujourd'hui sont dans la peine, dans la souffrance, dans l'épreuve. Cela aussi, c'est consolation de savoir que rien de tout cela n'a été épargné à la Sainte Famille, que nous admirons bien sûr, et avec Joseph et Marie nous adorons celui qui est le centre de cette famille, le Christ, Messie du Seigneur. Mais nous savons aussi que c'est celui qui nous aide à porter à endurer avec patience les peines.